Troisième partie. La chanson du néant. Après le 26 juin 2021. Rencontre du deuxième type. Dimanche 27 juin 2021, rue Lafayette, Paris. Un pincement à la joue et Blake se réveille sur un fauteuil à l'acier froid, ligoté, bâillonné, nu. Un travail de professionnel. Sans être garrotté, il ne peut pas bouger d'un pouce. Il reconnaît le décor, sobre, fonctionnel. Il est chez lui, rue Lafayette. Il reconnaît même ses liens, le ruban toilé ultra-résistant qu'il a acheté en avril dernier. À peine s'il se souvient qu'en pénétrant dans le deux pièces, il a ressenti une vive piqûre dans la nuque et qu'il s'est aussitôt effondré. La pièce où il se trouve a été une chambre. Elle conserve un lit étroit et elle s'ouvre sur une salle de bain avec une grande baignoire émaillée. Cela pourrait relever du design si le but n'était avant tout pratique. Il ne peut tourner la tête, mais ce n'est pas nécessaire pour comprendre que toute la pièce est bâchée de plastique transparent. Blake March, appelons-le ainsi, se doute bien de ce que cela présage. Scintille sur sa droite pour compléter ce décor qui ne déparerait pas la série Dexter. Une trentaine d'instruments chirurgicaux, bistouri, lancette, scalpel, scie électrique. Ciseaux, limes, il les reconnaît aussi. Certains n'ont jamais servi, comme cette perceuse crânienne qu'il a malgré tout testée sur des os à moelle. Il n'est pas terrifié, mais c'est sans doute l'effet secondaire très relaxant du midazolam qui lui a été injecté. Il lui faut quelques secondes pour identifier l'homme en combinaison intégrale, derrière sa visière, debout devant lui, qui le regarde se réveiller. Ses yeux s'écarquillent de stupéfaction. Stupéfaction est un mot faible. Les deux hommes se regardent longuement. Blake June observe son prisonnier. Trois jours qu'il réfléchit, raisonne sans trouver d'explication. Mais l'absurde n'interdit pas le sens pratique et il a tendu son piège. Il n'y avait pas d'autre voie. La mouche ne prend jamais rendez-vous avec l'araignée. Blake March, soudain, se débat, grogne, gémit, marmonne quelque chose sous le bandeau, mais Blake June ne détache pas le bâillon. D'une voix sourde, il parle à son oreille. « Je ne te fais pas de discours. Tu ne comprends pas ce qui se passe et moi non plus. C'est sans importance. Je suis toi, tu es moi. » Ça fait beaucoup. On ne peut pas être deux, tu le comprends bien. Blake June prend un crayon, un bloc et s'installe près de l'ordinateur allumé. Tous les numéros de mes comptes en banque ont été changés. Par toi, évidemment, puisque je le fais tous les trois mois. Tu connais la méthode pour retenir ces codes. Hoche la tête pour dire oui. Blake March obéit. Les pensées se bousculent et il en vient même à se demander s'il rêve d'un rêve incroyablement réaliste. Je vais me connecter devant toi à mes comptes en banque et te dicter des chiffres et des lettres. Tu confirmeras par un hochement de tête. À la première erreur, je t'arracherai un ongle. À la deuxième, je t'écraserai la première phalange. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as sûrement les mêmes souvenirs que moi. Tu te rappelles le contrat d'Amiens, il y a 2 ans? Hoche la tête pour dire oui. March hoche la tête. Il se souvient. Un truc typiquement pour les Albanais, mais soit le client n'avait pas les connexions, soit il lui faisait trop peur. C'était si atroce qu'il a failli ne pas le prendre. Les genoux percés, les coudes brisés, les doigts coupés, la langue et le sexe tranchés, les tympans troués et, le meilleur pour la fin, l'acide dans les pupilles. Pour toucher l'autre moitié des 70 000 euros, l'homme ne devait pas mourir. June poursuit. Tu ferais exactement la même chose à ma place, d'autant que tu es à ma place. March l'observe en plissant les yeux. Blake June a un sourire qui n'est pas cruel, plutôt embarrassé. Il n'a pas aimé Amiens. Trop, c'est trop. S'il n'y a aucune erreur, que je récupère tous les comptes, nous discuterons de l'avenir. De ce qu'il est possible de négocier entre nous, tu comprends ? Marge hoche la tête et June repense à la phrase d'Al Capone. On obtient plus de choses en étant armé et poli qu'en étant simplement poli. Bien, alors commençons. Première banque. First Caribbean Investment Trust. Marge hoche la tête. Il ferme les yeux, se concentre et pense à une demi-douzaine de flamants roses volant la nuit au-dessus des Alpes. Premier caractère. Lettre? Ok. Minuscule? Majuscule. Inférieur à L? Non. Inférieur à T? D'accord. L, M, N, O, P, Q, R, R? Parfait. Blake note R. Deuxième caractère. Lettre? Non. Chiffre? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hochement de tête. 6? Oui. Hochement de tête. Blake note un 6 derrière le R. Un quart d'heure plus tard, Blake June a récupéré tous ses comptes. Il les a de nouveau modifiés, toujours en suivant la même méthode. Une phrase pour chacun des trois comptes, facile à transcrire. Pour la First Caribbean Investment Trust, c'était donc « Regarde six oiseaux de couleur rose ». Ça ne veut pas dire grand-chose, mais cela s'écrit « R-6-O-D-C-R ». Et il suffit de se souvenir de six flamants roses. La suite pour la Ladvigence International Bank, il traverse un ciel noir de Venise à Paris. I-T-1-C-N-D-V-A-P, etc. Il a appris également les nouveaux identifiants et mots de passe de son site sur le Darknet et même le code changé lui aussi de son portable. Il a lu l'historique des messages, découvert sur son agenda qu'il, enfin Joe, a dîné plusieurs fois avec un certain Timothée dont il ignore encore tout. Mais June n'est pas curieux au point de retirer l'adhésif de la bouche de March. Il ne craint pas que ce dernier hurle au secours puisque tous deux savent que cette pièce est insonorisée, des quatre murs au plancher et au plafond. Mais il ne veut pas laisser le moindre doute s'instiller en lui. Il ne veut hésiter en rien. Lorsque March voit que June se lève, il n'a pas besoin d'explication. Évidemment qu'il ferait la même chose. Il ferme les yeux, il veut seulement que cela aille vite. June passe derrière lui, sans hâte, et lui injecte dans la nuque une dose de propofol qui lui fait perdre conscience en quelques secondes. Pas de souffrance inutile. Blake ne se déteste pas à ce point. Une minute plus tard, une piqûre de curare arrête le cœur de March. « La mort et le sommeil sont des frères jumeaux », disait déjà Homère. Blake, il n'y a désormais plus d'ambiguïté, coupe le ruban toilé, retient le cadavre avant qu'il ne tombe sur le sol. Il range soigneusement les vêtements, après tout c'est sa taille. Place le corps dans la baignoire, jambes en l'air, tête en bas, ouvre la douche et lui tranche la gorge. Le laisse se vider son sang. Il passe les doigts sous l'acide pour détruire les empreintes. Puis, avec soin, à la scie à os électrique, il découpe le corps, en s'appliquant à ne pas laisser de membres humains clairement identifiables, comme une main, un pied. Il manque un peu d'expérience. Sur le dos, sur son dos, il note un grain de beauté qu'il n'avait jamais remarqué, à la bordure irrégulière. À surveiller. En découpant le sexe, son sexe, il ne peut malgré tout retenir un frisson de dégoût. En 3 heures, il a rempli une centaine de sacs congélation hermétique. Il ne reste plus que la tête. Merde ! Le sparadrap. Blake a failli oublier le coup de sabot du poney. Il décolle le carré adhésif sur le front de March, la plaie y cautérisée déjà. D'un scalpel, il entaille légèrement sa propre peau jusqu'à ce que la future cicatrice soit plausible. Il désinfecte et il colle le sparadrap sur son front. Il plonge la tête de March dans le bain d'acide qu'il a préparé dans une bassine. La peau se désagrège en dégageant une volute de vapeur nitrique. Il est 19h. Blake finira demain. Il nettoie la salle de bain, ôte les bâches transparentes, à peine éclaboussées, les replie soigneusement. Une précaution superflue. Après tout, si l'on venait un jour à découvrir ce sang-là, chez lui, c'est le sien. Il empile les sacs dans la baignoire. Le volume est moindre que ce à quoi il s'attendait. 8 valisettes. 4 voyages. D'un téléphone jetable, il envoie un message à un destinataire secret. 8 bûches. Total client court. Réponse immédiate. OK. Mercredi 15h. J-2, H-2. Francis l'attendra demain lundi à 13h avec le 4x4 à la station de la porte de Clignancourt. Puis Blake sort, referme la porte à clé. Il sait qu'il va trouver que Quentin et Mathilde ont grandi un peu. Il y a une vie après la mort, surtout celle des autres. Lundi 28 juin 2021, 21h55, Palais de l'Élysée, Paris. Tout est prêt, Emmanuel, 5 minutes. Nous avons les chaînes d'info, un Facebook Live et un direct YouTube, avec 1 minute de décalage diffusion en cas de problème. Le président sourit à sa chef de la communication. Et à Washington, pas question que ce type vole la vedette à tout le monde. Il sera en retard sur nous, il répète encore son discours. Ce type répète ses discours? Il m'a l'air en roue libre tout le temps. Poutine? Xi Jinping? Je ne sais pas. Monsieur le Président, dit une voix d'homme. Le chef de l'État se tourne vers le sous-directeur du contre-espionnage, un petit homme chauve qui regarde encore son portable, troublé. C'était Mélois? Quand revient-il des États-Unis? Ce n'était pas lui, Monsieur le Président, dit le sous-directeur. L'avion du GLAM vient de décoller de la base de McGuire. Mais j'ai une information. Faites court, Grimal. Il y a 10 jours, la maintenance d'Airbus a noté une bizarrerie. Lors d'une révision d'un autre Airbus de China Airlines à Dubaï, les mécaniciens ont trouvé une pièce de voilure qui porte le même numéro de série que celle qui équipe un avion affecté à une ligne intérieure chinoise, la Beijing-Shenzhen. Or, c'est absolument impossible. L'avionneur a d'abord soupçonné une copie pirate, mais sur cette ligne Beijing-Shenzhen, en avril, nos satellites ont repéré une anomalie de trafic. Un appareil inconnu a été redirigé vers la base militaire de Yuyang. D'après les services, les Chinois aussi ont eu droit à un avion, comment dire, dupliqué, et ils l'ont entièrement désossé et recyclé les pièces. Et les passagers? L'équipage? Nous ne savons rien de plus. Les Américains ne nous ont pas avertis? Aucun indice qu'ils soient au courant de quoi que ce soit. Les deux hommes se taisent quand s'approche la directrice de la communication. Emmanuel, 20 secondes. Le président s'assied, la maquilleuse corrige un reflet sur son front. 10. La DIRCOM finit le compte à rebours en silence, le président fixe la caméra, le prompteur défile. Française, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous à cette heure tardive, tout comme le président américain le fait en ce moment à Washington, la chancelière allemande à Berlin, le président russe à Moscou et beaucoup de chefs d'État dans le monde entier. Un événement exceptionnel s'est produit jeudi. Des rumeurs qui circulent dans la presse et sur les réseaux sociaux sont en partie exactes. Les faits sont ceux-ci. Un avion a surgi dans le ciel au large de la côte est des États-Unis jeudi dernier. Le président français parle, parle. Avant, fait rare de laisser la parole au bout de 5 minutes à son conseiller scientifique. Pour ne pas ajouter de l'excentrique à l'incompréhensible, le mathématicien a rogné son aspect savant fou, troqué sa perturbante lavalière pourpre pour une fine écharpe de soie beige sans se résigner à décrocher du revers de sa veste une araignée d'argent. Il présente les hypothèses, une animation s'incruste pour plus de clarté, enfin il renvoie au site internet de l'Élysée pour des explications détaillées avec des chats organisés en direct. Chez Blake, comme partout en France sans doute, le silence est absolu. Flora laisse échapper un « c'est dingue, c'est totalement dingue ». Joe reste muet, mais Flora n'attendait pas de commentaire. Le président remercie son conseiller et reprend la parole. Mes chers concitoyens, en août 1945, après l'explosion d'Hiroshima où le monde a basculé dans l'ère nucléaire et la peur de l'anéantissement, l'écrivain Albert Camus écrivait « Voici qu'une angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances d'être définitive. On offre sans doute à l'humanité sa dernière chance, et c'est peut-être après tout le prétexte d'une édition spéciale. Mais ce devrait être plus sûrement le sujet de quelques réflexions et de beaucoup de silence. Ce beau texte doit être pour nous une source d'inspiration. C'est pourquoi, Françaises, Français, comme durant le drame de l'année dernière, ce long confinement contre la pandémie, les jours et les semaines qui s'annoncent doivent devenir un temps pour penser, mais aussi un temps pour trouver la paix. Les scientifiques voudront interpréter, ils voudront comprendre, ils voudront expliquer, et c'est leur tâche, mais c'est en soi, et en soi seul, que chacun trouvera des réponses. Je vous remercie. Vive la République. Vive la France.
C'est dingue, répète Flora. Tu imagines, Joe, si tu étais dédoublée ?